63.
Il va vous falloir des vêtements adéquats, dit Isalvert.
Derrière lui, sa femme ricana dédaigneusement.
Prudent, Seldon, qui imaginait déjà une quelconque tunique, demanda
« Que voulez-vous dire par vêtements adéquats ?»«
Quelque chose de léger, comme ce que je porte. Un maillot à manches très courtes, un pantalon ample, un slip lâche, des soquettes, des sandales ouvertes. J'ai tout ce qu'il vous faut. »
« Parfait. Ça me paraît très bien. »
« Et pour maîtresse Venabili, j'ai la même chose. J'espère que ça lui ira. »
Les habits que leur prêta Isalvert, et qui étaient les siens, leur allaient très bien, quoiqu'un peu courts. Quand ils furent prêts, ils prirent congé de maîtresse Isalvert, et celle-ci, l'air résigné mais toujours désapprobateur, les regarda partir sur le seuil de sa porte. On était en début de soirée. Et une jolie lueur crépusculaire illuminait encore le ciel. Les lumières de Dahl n'allaient pas tarder à s'allumer. La température était douce et l'on ne voyait quasiment aucun véhicule. Tout le monde marchait. On entendait dans le lointain le grondement omniprésent du réseau express et par moments on distinguait sans peine le scintillement de ces voitures.
Les Dalites, remarqua Seldon, semblaient marcher sans but précis.
On avait plutôt l'impression qu'il flânait pour le plaisir. Peut-être, si Dahl était aussi pauvre que l'avait laissé entendre Isalvert, les distractions peu coûteuses étaient-elles de mise? Et quoi de plus agréable et de plus économique qu'une promenade vespérale?
Seldon se surprit à adopter machinalement la démarche tranquille du promeneur, soudain gagnée par l'atmosphère d'amitié ambiante. En se croisant, les gens se saluaient et échangeaient quelques mots. Les moustaches noires de toutes tailles et de toutes épaisseurs fleurissaient à l'envi. C'était apparemment l'ornement de rigueur pour tout dalite mâle, aussi commune que les crânes lisses des frères mycogéniens. C'était un rite vespéral, une manière de s'assurer qu'une nouvelle journée s'était déroulée sans encombre et que vos amis étaient toujours heureux et bien portants. Il fut bientôt évident que Dors attirait tous les regards. Dans la lueur du crépuscule, l'acajou de sa chevelure s'était approfondi, mais il ressortait encore au milieu de cet océan de têtes brunes, sauf à l'occasion un crâne gris, comme une pièce d'or scintillant sur un tas de charbon.
« Ma foi, c'est bien agréable, » observa Seldon.
« Effectivement, » dit Isalvert. « En temps normal, je me promène avec ma femme, et elle est dans son élément. » Il n'y a personne à un kilomètre à la ronde dont elle ne connaisse le nom, le métier, les relations. Prouesse dont je serais bien incapable. Tenez, en ce moment même, la moitié des gens qui me saluent, je serais bien en peine de vous dire leur nom. Mais ne traînons pas trop, car il faut nous rendre aux ascenseurs. Au niveau inférieur, il y a de l'activité.
Ils étaient dans la cabine descendante quand Dors demanda.
« Je présume, maître Isalvert, que les puits thermiques sont des endroits où la chaleur interne de Trantor est exploitée pour produire de la vapeur destinée à alimenter des turbines et à produire de l'électricité?
Oh non! Il y a des thermopiles géantes à haut rendement qui produisent directement de l'électricité, mais je vous en prie, ne me demandez pas de détails. Je ne suis qu'un programmeur d'Holovision. En fait, ne demandez de détails à personne là-dessous. Tout le truc est une gigantesque boîte noire. Ça marche, mais personne ne sait comment.
Et si jamais il y a un pépin?
En général, il n'y en a pas, mais si ça arrive, un expert débarque de je ne sais où. Quelqu'un qui s'y entend en ordinateur. Tout est très informatisé, bien sûr.
La cabine s'arrêta et ils en sortirent. Une bouffée de chaleur les assaillit.
Il fait chaud, dit Seldon, remarque tout à fait inutile.
« Effectivement, » dit Isalvert. « C'est ce qui fait toute la valeur de Dahl comme source d'énergie. La couche de magma y est plus proche de la surface que partout ailleurs sur la planète. C'est pourquoi il faut travailler au chaud. »«
Et la climatisation ?» demanda Dors.
« On l'utilise, mais c'est une question de coût. On ventile, on rafraîchit, on assèche, mais si on va trop loin, on dépense trop d'énergie et le processus devient trop coûteux. »
Isalvert s'arrêta devant une porte où il s'annonça. Le battant s'ouvrit, livrant passage à un brusque courant d'air froid.
On devrait trouver ici quelqu'un pour nous guider et surveiller les remarques dont maîtresse Venabili risque d'être la cible, du moins de la part des hommes.
Oh, les remarques ne me gêneront pas.
Moi si, fit Isalvert.
Un jeune homme sortit du bureau et se présenta sous le nom de Anno Lindor. Il ressemblait beaucoup à Tissalvert, mais Seldon estima que, tant qu'il ne se serait pas accoutumé à ces nuées de petits brins basanés aux moustaches luxuriantes, il serait incapable de les distinguer les uns des autres.
« Je serais ravi de vous faire visiter tout ce qu'il y a à voir, » leur dit Lindor. « Ce n'est pas que ce soit particulièrement spectaculaire, vous savez. »
Il s'adressait à eux trois, mais ses yeux restaient fixés sur Dorse. Il ajouta
« Ça risque d'être pénible. Je suggère que nous ôtions nos chemises. »
« Il fait agréablement frais ici, » observa Seldon.
« Bien sûr, mais c'est parce que nous sommes des cadres, le privilège du rang. Hors du bureau, on ne peut pas maintenir la climatisation à ce niveau. Les gens qui travaillent là sont mieux payés que moi. En fait, ces boulots sont les mieux payés de Dale, et c'est l'unique raison qui fait qu'on trouve du monde pour bosser ici. Mais il devient de plus en plus difficile de trouver des puisatiers. »
Il inspira un bon coup.
« Bon, on plonge dans la soupe. »
Il retira sa chemise et se l'attacha autour de la taille. Tissalvert fit de même et Seldon les imita. Lindor jeta un œil à Dorse et dit
« C'est pour votre confort personnel, maîtresse, mais ce n'est pas une obligation. »
« Pas de problème. »
Et Dorse retira son chemisier. Son soutien-gorge était blanc, sans renfort et extrêmement décolleté.
« Maîtresse, » dit Lindor, « ce n'est pas... »
Il réfléchit une seconde, puis haussa les épaules et conclut.
« Bon, très bien, on fera avec. »
Au début, Seldon ne remarqua que des ordinateurs, des machines, d'énormes tuyauteries, des voyants qui clignotaient, des écrans qui scintillaient. Il régnait une relative pénombre, sauf autour de certaines machines. Seldon contempla l'obscurité presque totale au-dessus de lui. « Pourquoi n'est-ce pas mieux éclairé ?»
« Il y a assez de lumière là où on en a besoin. »
Lindor avait une voix agréablement posée et un débit rapide, un peu sec peut-être.
« L'éclairage général reste bas pour des raisons psychologiques. Mentalement, on associe la lumière à la chaleur. Les plaintes grandissent quand on augmente la lumière, même si on s'arrange pour faire baisser la température. »
« Tout cela paraît bien informatisé, » remarqua Dorse. « Mais la totalité des opérations aurait pu être confiée aux ordinateurs. » Ce genre d'environnement est fait pour l'intelligence artificielle.
« Votre idée est juste, » dit Lindor, « mais nous ne pouvons pas non plus courir le moindre risque de panne. Nous avons besoin de personnel sur place au cas où quelque chose tourne mal. La défaillance d'un ordinateur peut engendrer des problèmes jusqu'à 2000 kilomètres d'ici. »
« De même pour l'erreur humaine, non ?» remarqua Seldon.
« Certes, mais quand des hommes et des ordinateurs travaillent en parallèle, toute erreur des machines peut être rapidement décelée et corrigée, et réciproquement, toute erreur humaine est encore plus rapidement rectifiée. Rien de grave ne peut donc arriver, à moins qu'hommes et machines se trompent simultanément, une éventualité hautement improbable.
« Improbable, mais pas impossible, hein ?» dit Seldon.
« Presque impossible, mais pas totalement. Les ordinateurs ne sont plus ce qu'ils étaient, les gens non plus. »
Seldon eut un léger rire.
C'est ce qu'on dit toujours. Non, non, je ne parle pas du passé, je ne fais pas allusion au bon vieux temps, je parle statistique.
À cette remarque, Seldon se souvint de Eumine parlant de la décadence.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Reprit Lindor, baissant le ton.
Tenez, ils sont tout un paquet, des C3 à les voir. Ils sont en train de boire. Pas un ou une qui soit à son poste.
Qu'est-ce qu'ils boivent ? Demanda Dorse.
Des boissons spéciales pour compenser les pertes en électrolytes. Des jus de fruits.
Vous ne pouvez quand même pas le leur reprocher, s'indigna Dorse. Dans cette chaleur sèche, il faut bien se réhydrater.
Savez-vous combien de temps un C3 bien entraîné peut faire traîner sa pause boisson? Et on ne peut rien y faire. Si on leur accorde une pause de 5 minutes et qu'on étale leurs horaires pour leur éviter de se réunir, c'est la révolte.
Ils approchaient du petit groupe d'hommes et de femmes. L'égalité des sexes paraissait plus ou moins la règle dans la société d'Alit. Et les uns comme les autres étaient en chemise. Les femmes portaient des sous-vêtements apparentés à des soutiens-gorges, mais conçus de manière strictement fonctionnelle.
S'il servait à soulever et à séparer les seins pour améliorer la ventilation et limiter la transpiration, il n'en masquait rien. En aparté, Dorse confia à Seldon.
« C'est logique, Harry. Je suis trempé là-dedans. »«
Eh bien, ôtez votre soutien-gorge. Ce n'est pas moi qui lèverai le petit doigt pour vous en empêcher. »«
Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. »
répondit Dorse qui laissa son soutien-gorge où il était. Ils arrivèrent près du groupe qui comprenait une douzaine de personnes.
« Si l'un d'eux fait une remarque grossière, j'y survivrai. »
avertit Dorse.
« Merci, » dit Lindor. « Je ne vous promets pas qu'ils s'en abstiendront, mais il va falloir que je vous présente. S'ils se mettent dans la tête que j'accompagne deux inspecteurs, ils risquent de devenir nerveux. Les inspecteurs sont censés fouiner tout seuls, sans représentant de la direction pour les surveiller. »
Il leva les bras.
« Puisatier, j'ai deux personnes à vous présenter. Voici des visiteurs du dehors, des exos, des chercheurs. Sur leur monde, ils ont une pénurie d'énergie et ils sont venus voir comment on se débrouille à Dalle. Ils pensent pouvoir apprendre quelque chose.
« Ils apprendront déjà à suer !»
lança un puisatier, déclenchant une cascade de rires gras.
« Elle doit transpirer en ce moment !»
remarqua une femme.
« À voir comment elle les couvre !»
Du tac au tac, Dorse répliqua.
« Je les dévoilerai bien, mais ils auraient du mal à rivaliser avec les vôtres. »
Le rire devint bon enfant. C'est alors qu'un jeune homme se détacha du groupe, fixa Seldon d'un regard intense, le visage figé, sans une trace d'humour.
« Je vous connais !»
lui dit-il.
« Vous êtes le mathématicien !»
Il se précipita sur Seldon et le dévisagea avec une insistance grave. Automatiquement, Dorse s'interposa, tandis que Lindor passait devant elle à son tour en s'écriant
« Arrière, puisatier ! Surveille tes manières !»«
Attendez !» intervint Seldon. « Laissez-le s'exprimer. Qu'avez-vous tous à faire écran devant moi ?»«
Si l'un d'eux approche un peu trop, »
murmura Lindor,
« vous allez vous apercevoir qu'ils ne sentent pas la rose. »«
Je peux supporter ça !» rétorqua Seldon sèchement. « Jeune homme, qu'est-ce que vous voulez ?»«
Je m'appelle Amaril. Hugo Amaril. Je vous ai vu à l'Holovision. »
« Ça se peut, mais encore,
je ne me souviens pas de votre nom. »«
Vous n'en avez pas besoin. » »«
Vous parliez d'un truc appelé psychohistoire. »
« Vous ne savez pas à quel point je le regrette. »«
Quoi ?»«
Rien. Que voulez-vous ?»«
Vous parlez. Rien qu'un petit moment. Maintenant. »
Seldon lorgna Lindor qui hocha négativement la tête.
« Pas durant son temps de travail. »«
À quelle heure prenez-vous votre poste, monsieur Amaril ?» demanda Seldon.
« 16 heures. »«
Pouvez-vous me voir demain à 14 heures ?»«
Bien sûr. Où ça ?»
Seldon se tourna vers Tissalver.
« M'autorisez-vous à le recevoir chez vous ?»
L'intéressé n'avait pas l'air enchanté.
« Je n'en vois pas l'utilité, ce n'est qu'un puisatier. »
Il m'a reconnu. « Il sait quelque chose à mon sujet, ce n'est sûrement pas n'importe qui. Je le recevrai dans ma chambre. » Puis, voyant que Tissalver ne faisait pas mine de se radoucir, il ajouta « Ma chambre personnelle, pour laquelle on vous verse un loyer. Et vous serez alors au travail, hors de l'appartement. » À voix basse, Tissalver expliqua
« Ce n'est pas pour moi, maître Seldon, c'est ma femme, Casilia. Elle ne le supportera pas.
Je lui parlerai, » dit Seldon résolu.
« Il faudra bien qu'elle le supporte.